appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange et de partage. Processus électoral en RDC. Après la clôture de l'opération de cartographie des bureaux d'enregistrement des électeurs et bureaux de vote, la CENI a annoncé à l'issue d'un entretien avec la députée nationale Solange Masumbuko le début des opérations d'enrôlement des électeurs au mois de décembre prochain. La centrale électorale a aussi annoncé avoir trouvé une entreprise qui lui fournira les kits pour l'enregistrement des électeurs. Le 9 août dernier, rappelons que le gouvernement américain a octroyé la somme de 23,75 millions de dollars américains pour soutenir le cycle électoral en cours en RDC. Quels seraient pour vous les préalables pour la réussite de ce processus électoral à une année? 081 890 49 69, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Paul Badanyama est à la mise en onde de ce magazine réalisé par Anania Jiré Mabondo. Quant à moi, Pierrot et la magicien, réel plaisir de vous retrouver encore, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Nous sommes ensemble avec vous pour près de 55 minutes d'échange et de partage dans Parole aux auditeurs autour de cette question du processus électoral après la publication de la cartographie, après plutôt la publication de la feuille de route de la CENI, l'opération d'identification des endroits où seront installés les bureaux d'enregistrement des électeurs et bureaux de vote. Cette opération a été déjà clôturée. La CENI annonce pour le début d'enregistrement des électeurs au mois de décembre prochain. Et quels sont pour vous d'autres préalables qui peuvent conduire à réussir le processus électoral en 2023? Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes nombreux à vouloir commenter ces sujets. Xavier, vous êtes à Lubumbashi. Merci d'être avec nous en direct. Bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quels sont pour vous les préalables pour réussir le processus électoral?
Merci. Ici, le préalable, je dirais, premièrement, pour que ce qui nous reste actuellement, il nous faut premièrement commander d'abord les kits électoraux, c'est-à-dire, premièrement, je vois les machines qui vont permettre d'enrôler d'abord les électeurs, c'est-à-dire, il faut déjà les commander et les déployer dans de milieux où vont se dérouler les différents enrôlements, pour qu'on puisse déjà avoir déjà les électeurs, parce que cela va permettre de voir aussi, de connaître maintenant le taux des enrôlés qui vont aussi permettre dans le sens de savoir comment va se passer le suite, comment va continuer le processus. Mais ici, pour y arriver, parce que j'ai entendu, on a parlé qu'on a déjà commandé, mais je vois que c'est ici le moment opportun qu'il ne faudrait pas qu'on puisse passer beaucoup de temps, parce que quand on passe beaucoup de temps, on risque de perdre le temps et puis on peut avoir des raisons pour justifier la non-tenue des élections. Mais quand nous voyons l'argent qu'on a reçu de la part des États-Unis, on voit que c'est bien. Mais ça fait maintenant, ça c'est le quatrième processus, si je me trompe, quatrième processus électoral. Mais pourquoi nous n'avons pas cette culture de pouvoir commencer de parier notre argent pour qu'on ne puisse pas arriver à un moment donné comme ça, qu'on commence à demander par-ci, par-là, on commence à nous offrir de l'argent comme ça. C'est parce que cet argent-là risque d'influencer sur notre politique interne. Mais en ce qui concerne la cartographie, là, je ne comprends pas. Est-ce que voyons du côté Ouvira, comme on avait dit. Ouvira, on dit, c'est la ville. Il n'y a pas de circonscription électorale qui reste toujours dans l'ancienne circonscription, mais je me demande est-ce que les nouvelles villes, on ne va pas encore tenir compte à ce qui concerne la nouvelle cartographie, parce qu'il y a des nouvelles villes qui sont nées. Là aussi, je vois que les choses ne sont pas un peu claires. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais pour que le processus puisse être rassurant, il faudrait aussi continuer à travailler sur comment est-ce qu'on appelle ça encore, les gens là qui concourent aux élections là, qu'on puisse déjà mettre en place ces gens, une fois qu'on déploie les machines, ils commencent déjà à travailler pour que ça puisse prendre, parce que je sais que ça va prendre une année, ça, si vous voyez la manière dont ça s'est déroulé l'année passée, ça peut prendre une année. Alors si on déploie en retard, on risque de connaître un retard d'enrôlement, et cela risque de donner raison ou bien de faire à ce que les élections puissent être repoussées, vous voyez un peu.
Voilà. Merci beaucoup Xavier. Vous dites que bon voilà, si cela était déjà fait comme ça, il faut passer rapidement à la commande et au déploiement des kits d'enrôlement des électeurs avant l'heure. Mais vous vous êtes aussi inquiété par rapport au découpage avec des nouvelles villes. Mais rappelons que lors de ces opérations d'identification, des agents ont pu travailler en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, par exemple, avec des chefs des groupements, chefs des secteurs, partout, pour pouvoir identifier les délimitations des entités et pouvoir identifier ces endroits où on installe le centre d'enregistrement d'électeurs ainsi que le bureau de vote. Et vous souhaitez que tout cela soit fait plus rapidement pour éviter qu'on puisse encore enregistrer le retard ou soit repousser la date des tenues des élections. Merci beaucoup Xavier. Maître Francis, vous êtes à Goma. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Pierrot.
Pour vous, quels sont les préalables pour réussir la tenue des élections en 2023?
Bon, moi je me dis pour les préalables quant aux élections de 2023, Je scinde la réflexion en deux parties. Une partie prend l'aspect politique. Je me dis que j'insiste beaucoup sur la volonté politique des dirigeants actuels. La deuxième partie prend l'aspect technique. La CENI doit se mettre vraiment à l'œuvre, mais nous sommes en train d'entendre à travers les médias qu'il y a un problème de finances. Il y a un problème de respect des calendriers, des échéances qui est déjà en dépassement. Il faudrait que la CENI soit renforcée techniquement et politiquement, lui doter des moyens pour qu'elle fasse diligence afin de respecter les échéances telles que prévues par les politiciens, par le calendrier électoral.
Merci beaucoup. D'ailleurs, rappelons que le débat autour des financements, parce que vous avez évoqué cela, on l'a suivi il y a quelques mois où la CENI estimait qu'il n'y avait pas assez de décaissements en fonction de besoins exprimés dans la feuille de route. Et le gouvernement avait donné des garanties qu'il y avait déjà suffisamment de fonds alloués. Mais rappelons que dans la communication de la CENI par rapport à l'enrôlement des électeurs, et on signale qu'il a déjà trouvé un partenaire ou soit l'entreprise qui devra fournir les kits électoraux. Et pour vous, il faut que la question de finances soit réglée plus rapidement pour éviter qu'on puisse enregistrer le retard. Mais d'un côté, il y a la volonté politique, vous l'avez évoqué. S'il y a une volonté politique réelle, on peut avoir des élections dans les délais, ça veut dire l'année prochaine. Merci beaucoup, Maître Francis. François, vous êtes à Ilebo. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, Kiro et la mairie, salut à Madame Anania, qui nous a rejoint depuis Mouika.
On vous écoute.
Bonjour aussi à la radio, à tous les autres de la radio Capi, et l'invité qui est là, il est de la CENI, vous ne nous a pas donné son nom. Vous me suivez, Kiro et la mairie?
On vous écoute, François.
Merci bien. Voici les préalables pour la réussite du processus électoral en RDC avant décembre 2023. Il faut deux points. Il faut que le gouvernement central débloque tous les fonds nécessaires à la CENI, y compris les salaires des ouvriers. Il faut éviter l'arrivée des kits au lieu prévu en retard, et surtout au Congo profond, là où nous nous retrouvons aujourd'hui. Il faut également éviter de diaboliser les paysages politiques avec les opposants. Le glissement ne peut pas être au rendez-vous. Mais ce qui est vraiment inimitable de m'exprimer. Quand je parle de, il ne faut pas diaboliser les paysages politiques, en connaissance des raisons. Aujourd'hui, nous avons des candidats ou nous avons des personnalités politiques, qui font rage, mais dont le pouvoir en question, qui est censé respecter ce qui a été dit comme état des droits par le feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, parce que nous parlons d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, c'est son fils qui est au pouvoir. Nous sommes en train de constater qu'il y a la diabolisation de certains acteurs politiques, le mien au fond. Si vous me le permettez, on peut citer Kabund Wakabund, on peut citer Madame Pogneux. Donc, il faut laisser tout le monde là aller aux élections, que les meilleurs gagnent. Donc, il faut, parmi les préalables, il faut noter, il faut que la CENI note. Et la CENI aussi joue le rôle du conseil au ministère derrière qui collabore avec le chef d'État direct. Il faut éviter de diaboliser les paysages politiques. Ça fait partie des préalables très nécessaires que la société civile doit ouvrir, laisser M. Pirot et la ministre.
Alors, François, vous estimez que le fait, par exemple, qu'il y ait de personnes qui doivent être poursuivies parce qu'il y a des faits qui leur sont reprochés, ou est-ce que par le fait qu'on va aller aux élections, la justice, par exemple, ne peut pas avoir un dossier, ouvrir un dossier envers un acteur politique à cause des élections?
Non, je n'ai pas dit ça, M. Pierrot et la mesure. Vous savez, il y a les acteurs d'opinion, il y a des leaders d'opinion. Pourquoi lorsqu'à l'époque, si nous voulons nous rappeler de l'histoire politique, à l'époque de Joseph Kabila Kabange, aujourd'hui président honoraire, le président en fonction aujourd'hui, Félix Tshisekedi Wamulumba, avec ses compagnons, n'ont-ils pas tenu des propos discordants envers le chef de l'État Kabila? Lui n'était pas le chef de l'État pour faire la poursuite à ces gens ici. Non, écoutez, nous ne sommes pas dans la case des flatteurs, les gens qui sont à côté du chef de l'État pour le flatter, pour garantir leur poste. Mais nous sommes les jeunes éveillés qui doivent parler pour que le chef de l'État puisse capitaliser nos propos afin de bien gérer le pays. Il est le chef de l'État, il a fonction, qu'il laisse tous les opposants aller aux élections.
Merci beaucoup. Merci François. Vous estimez pour vous le grand préalable en dehors du fait qu'il faut mettre suffisamment de moyens à la disposition de la CENI pour lui permettre de faire arriver des kits électoraux avant à l'heure, et puis aussi vous insistez sur le fait que le climat politique doit être assaini, c'est-à-dire qu'il ne faut pas poursuivre les opposants, il ne faut pas travailler pour éliminer ceux qu'on estime, ceux qui sont considérés comme des opposants pour les prochaines élections. Pour vous, c'est de cette manière-là qu'on doit, c'est un préalable majeur, ne pas s'attaquer aux opposants, leur permettre tous d'aller se présenter aux élections. Merci beaucoup François de nous avoir appelé de Mouika. Kalo Kalonji, vous êtes en Boujimaï au Kassai Oriental. Bonjour, quels sont pour vous les préalables pour arriver à réussir les élections l'année prochaine?
Ok, merci beaucoup. Bonjour aux auditeurs de la radio Capi qui nous suivent à ce moment ici. Mais avant d'y arriver, monsieur le journaliste Pierrot et Mégé, je commence d'abord pour vous dire, après la cartographie de la CENI, moi je pensais qu'on pouvait enchaîner directement avec l'enrôlement des électeurs. Vous savez que dans les histoires de passation des marchés publics, c'est là qu'ils font des travaux, par exemple des infrastructures, il y a ce qu'on appelle des tâches. Moi, je pensais au même moment, quand on faisait la cartographie, on termine. La deuxième chose qui pouvait suivre, justement, c'était la formation des agents électoraux. Ce qui n'est pas le cas. Vous avez suivi avec moi un communiqué de la CENI avec madame, rapporteur, qui nous a dit que non, on n'a pas passé à cette formation parce qu'il y a eu autant des agents, il fallait nettoyer tout ça. Non, ce n'est pas ça la raison. Moi, je trouve que c'est une manière aussi de nous amener au-delà. Pourquoi aller au mois de décembre? Pourquoi commander les kits électoraux à ce moment ici? Vous savez, avec notre pays ici, quand on commande, en coulisses, j'avais suivi qu'on a choisi une société qui représente 100%, c'est-à-dire il y avait une société qui pouvait nous faire des histoires à un prix là, à 50% par rapport à la société choisie, mais une chose à vérifier. Mais messieurs, moi je me dis aujourd'hui là, ce qui est préalable, c'est d'abord le climat apaisé, de politique apaisée. Vous savez, l'autre ami, ce qu'il vient de dire là, monsieur le journaliste, moi je suis d'accord. Vous savez que ce qui pose les problèmes, si à chaque moment des élections, nous perdons des vies humaines. En tout cas, pour moi, je suis contre les élections du genre. Ce qu'il faut, c'est-à-dire, préalablement, avoir un climat apaisé. Celui qui gagne doit gagner et les autres doivent accepter. Les Congolais ne doivent pas passer à un moment après les élections et on tue les gens. En tout cas, ça, nous n'aimons pas. Ceux qui meurent là, ce sont nos frères. Nous avons perdu les Mukendji, nous avons perdu des gens. En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord. Et deuxième chose, messieurs les journalistes, vous savez, aujourd'hui, les gens parlent des Kabounde, les gens parlent ici, par là. En tout cas, je suis en train de dire aux amis, l'état des droits, quand vous êtes dans l'infraction, on doit vous arrêter. C'est normal. Mais moi, je suis contre l'arrestation et après, on nous dit que non, c'est dans une surveillance surveillée. En tout cas, c'est une manière aussi de les relâcher. Je suis contre.
Oui, mais, Kalo, c'est le droit, c'est la justice. La justice a plusieurs manières de procéder. On peut, quand on arrête quelqu'un, cela ne veut pas dire qu'il est déjà condamné. On peut te juger, on peut te mettre en résidence surveillée, tu peux obtenir la libération provisoire ou conditionnelle, on peut te juger, on peut te condamner. Ce sont les voies des droits, on ne va pas. Le fait qu'une personne est arrêtée, automatiquement, il n'est pas condamné, il est encore présumé, innocent, comme on dit. On ne va pas directement condamner la personne, la mettre en prison.
Je peux revenir à vous pour vous dire que quand on avait dit que ça méritait malade, quand il est sorti pour les soins, il est rentré encore en prison. Moi, je vous dis que c'est une manière de libérer ces gens-là. Moi, mon problème, je suis en train de demander aux Congolais qui nous suivent. Nous avons besoin des élections apaisées. J'insiste, apaisées, qui ne coûtent pas de vies humaines. C'est ça ma préoccupation, messieurs les journalistes, que les gens le veulent ou pas, nous avons besoin des élections apaisées. Les opposants ne doivent pas se comporter en opposant. Comme vous êtes opposant, n'allez pas au-delà des droits, n'allez pas au-delà de vos droits. Si vous allez au-delà, on vous arrête. Moi, je suis d'accord de les arrêter et les amener en prison. C'est ça mon souhait. Si vous allez au-delà, c'est ça ma préoccupation. Pour les élections.
Merci beaucoup, Kalo. Pour vous, vous estimez qu'on est déjà suffisamment en retard parce que après l'opération l'opération de cartographie, on devrait directement former déjà les agents électoraux et passer à l'enrôlement des électeurs. Le fait qu'on puisse renvoyer l'enrôlement des électeurs vers le mois de décembre, pour vous, vous estimez qu'il y a déjà un grand retard. Mais d'un côté, il faut avoir un climat politique apaisé qui puisse permettre à ce que les élections se passent dans le calme et que les résultats soient acceptés pour éviter encore des affrontements et des gens qui meurent. Mais de l'autre côté aussi, vous conseillez aux gens que le fait d'être dans l'opposition ou parler du droit, cela n'exclut pas le fait qu'une personne soit poursuivie. Voilà, merci beaucoup, Kalo. 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ce magazine qui se penche sur le procès électoral. Comment arriver à l'avoir d'ici l'année prochaine? C'est la question au centre de nos échanges.
Parole aux auditeurs.
Alidor, vous nous appelez de Kananga au Kasaï central. Vous avez suivi les comparateurs qui se sont exprimés. Hein. On revient sur les moyens qu'il faudra donner à la CENI. Mais pour vous, quels sont les préalables pour avoir des élections en 2023?
Bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour à l'invité ainsi qu'aux auditeurs de la radio Capi. Allô, Pierrot?
Oui, on vous écoute, Alidor.
Oui, monsieur Pierrot. D'emblée, j'ai dit que l'annonce du début des opérations électorales, c'est une bonne option levée par les animateurs de la centrale électorale ainsi que le gouvernement congolais, car comme vous le savez, beaucoup se demandaient si effectivement il y aurait des élections en 2023 ou il n'y en aurait pas. Alors cette annonce vient un peu couper le court, donc couper court au débat sur un éventuel glissement ou bien au non-respect de la Constitution quant aux élections de 2023. Mais quant au préalable, M. Pierrot, nous disons que la première des choses, c'est l'indépendance des agents électoraux. Les animateurs de la centrale électorale doivent faire preuve d'impartialité. Ce qui est un peu à la base de beaucoup de contestations que nous enregistrons chaque fois à l'annonce des résultats, ou même avant les élections, on remet toujours en cause l'impartialité des agents électoraux. Donc ces agents électoraux ne doivent pas être au service d'un camp politique, mais ils doivent plutôt être au service de toute la nation et surtout nous éviter les scènes honteuses que nous avons enregistrées en 2006, 2011 et aussi 2018. Il faut maintenant que cette fois-ci, avec l'actuel bureau de la CENI, qu'on fasse preuve vraiment d'une impartialité au vrai sens du terme. Et la deuxième des choses, monsieur Pierrot, il faut aussi que la CENI, le gouvernement congolais, puisse accorder sa quote-part de finances à la centrale électorale. Parce que souvent, on donne seulement l'argent en retard, et c'est cela qui nous amène au glissement ou sinon au dépassement des délais constitutionnels pour l'organisation des élections. Ben, c'est déjà un problème. Maintenant, il faut que le gouvernement, cette fois-ci, accorde un peu d'argent avant l'heure pour que la CENI ne trouve pas d'autres prétextes ou qu'on ne donne pas des arguments aux contestateurs du régime actuel qui pensent qu'il y aura un glissement. Mais le gouvernement doit aussi, nous avons confiance à l'actuel régime qui est un régime de démocrates, et nous ne voyons pas ce gouvernement en train de dépasser 2023 sans organiser des élections. La troisième des choses, M. Pierrot, est que la CENI doit nous éviter un peu certaines attitudes de nature à pouvoir ne pas permettre la tenue des élections en 2023. C'est par exemple l'enrôlement des Congolais de la diaspora, comme la CENI l'a annoncé. Cette situation va nous amener à des situations qui pourront faire que même les élections générales soient contestées, parce que dans notre pays, la question congolaise, la nationalité congolaise est une et exclusive.
Oui, mais alors, Alidor, avant que vous puissiez poursuivre, quand on parle du Congolais de la diaspora, on n'a pas parlé des étrangers. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont dans la diaspora, qui gardent la nationalité congolaise. On n'a pas parlé d'aller enrôler les Congolais qui ont changé de nationalité. On parle des Congolais qui vivent dans la diaspora. Ils sont nombreux.
Oui, mais c'est héros. Ils sont nombreux, nos compatriotes qui ont déjà changé de nationalité, qui vivent à l'étranger, mais qui, pour besoin de la cause, se font passer pour des Congolais, alors qu'en acquérant d'autres nationalités, ils perdent automatiquement la nationalité congolaise. Et c'est difficile par rapport au temps qui reste qu'on puisse vérifier un peu au niveau de l'état civil de ces différents pays, la si ces Congolais-là ont déjà acquis les nationalités du pays où ils vivent ou ils n'en ont pas. Et que c'est cela maintenant là qui fera que beaucoup d'étrangers se fassent enrôler en lieu et place des Congolais. Et ça pourra prendre beaucoup de temps. Et M. Pierrot, pourquoi enrôler un Congolais qui vit par exemple en France et pas enrôler un Congolais qui vit ici à côté de nous au Rwanda ou donc au Congo-Brazzaville? Donc cette injustice-là ne se justifie pas, M. Pierrot. Donc il y a un peu de l'injustice. Et c'est une décision qui n'est pas du tout réfléchie et qui pourra nous amener à beaucoup d'autres histoires. C'est comme ça que nous recommandons à la CENI un peu de se concentrer sur l'essentiel. L'État ne permet pas d'enjamber ou d'imiter ce qui se fait dans d'autres pays, de peur que même les élections soient toujours contestées, et qu'on enregistre, comme les prédécesseurs l'ont déjà dit, au bain de sang à chaque annonce des résultats. Donc déjà, avec trois cycles électoraux que nous avons connus, il faut que la RDC fasse preuve de maturité politique et que cette fois-ci, que nous ayons un peu de résultats qui seront acceptés par tous. Et aussi, il faut s'adonner à la campagne de citoyenneté électorale. Il faut commencer à enseigner aussi la population, que les gens puissent avoir, en quelque sorte, qu'ils puissent avoir la citoyenneté électorale comme ça, quand on publie les résultats, et le gagnant est réellement gagnant, et que le perdant accepte aussi sportivement qu'il a perdu et que ce n'est pas une fatalité. Donc c'est un peu ça, M. Pierrot.
Alors, merci beaucoup, Alidor. Mais rappelons quand même que si vous aviez suivi il n'y a pas longtemps Radio Capi, je pense que vous aviez suivi le chargé des opérations au niveau de la CENI, hein, il était l'invité du journal de Radio Capi qui est revenu sur la question de l'enrôlement des Congolais de la diaspora. Il a dit que c'est vraiment ce que la loi prévoit. Il n'y a rien de nouveau dans cela. Mais comme c'est une nouvelle manière, en fait, la première fois de le faire, c'est pourquoi la CENI a prévu une zone pilote, hein, où on prend l'Afrique du Sud, la France, la Belgique, le Canada et les États-Unis pour d'abord essayer avec avec ces quelques pays pour pouvoir comment ça peut être généralisé. Mais il faut toujours commencer quelque part, commencer par cette opération pilote et voir comment l'étendre avec les temps si les résultats sont probants. Ce n'est que d'abord une opération pilote, mais cela est prévu par la loi de permettre à ceux que les Congolais qui sont à l'étranger puissent participer aux élections dans le pays. Merci beaucoup Alidor. Deo Gracias, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, merci bien, messieurs les journalistes. Ma contribution par rapport à la thématique du jour, je voudrais rappeler une chose en disant que la CNU doit comprendre qu'elle est une institution d'appui à la démocratie. Et au-delà d'être l'institution d'appui à la démocratie, c'est elle qui a l'obligation d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Étant donné que la Constitution, article 73 qui dit que le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. Là, nous comprenons que c'est une obligation qui est constitutionnelle, que la CENI doit respecter. La CENI doit respecter cette obligation, ce n'est pas nous amener dans des tournures qui ne justifient pas son nom. Pourquoi attendre le mois de décembre pour commencer les opérations de l'enrôlement, soit les opérations d'enrôlement des électeurs? Ce qui n'est pas justifié parce que la cartographie a déjà pris fin. Mais aujourd'hui, nous ne comprenons pas pourquoi la CENI nous pousse toujours au mois de décembre pour commencer ces opérations. Ce qu'il faut encore souligner, le gouvernement doit aussi être responsable, parce que c'est le gouvernement qui doit financer à la CENI de respecter ce délai constitutionnel qui est obligatoire. Tout ça, c'est pour éviter qu'un jour, après l'expiration du mandat du président en exercice, si nous nous retrouvons dans une hypothèse où il n'y a pas élection, cela peut amener à un soulèvement populaire. Donc la population va appliquer cette disposition constitutionnelle qui dit que toute personne, tout Congolais a droit de faire échec à toute personne qui exerce le pouvoir en dehors du mandat constitutionnel, donc en dehors des exigences constitutionnelles. C'est pourquoi la CENI doit respecter cette obligation, doit mettre dans tout ce qu'il fait là. Les animateurs de la CENI doivent comprendre qu'ils ont une mission, ils ont une obligation constitutionnelle d'organiser les élections dans les délais de la loi, qui est la Constitution. Et le gouvernement aussi doit être responsable, c'est-à-dire le gouvernement doit financer à la CENI. Au-delà de ça, on est en train de nous distraire en disant que la CENI a reçu tel montant provenant d'un pays, provenant d'un gouvernement. Dernièrement, on a parlé du gouvernement américain qui a financé un montant là colossal d'argent juste pour soutenir le processus électoral. Ce qui est étonnant. Pourquoi? Parce que le pays, la République démocratique du Congo, doit être aussi responsable. Le pays a les moyens. Le gouvernement a les moyens. Nous voyons que c'est la mauvaise foi. Donc, on n'a pas cette volonté.
Rappelons que le fait que les États-Unis aient donné un appui, cela n'exclut pas le fait que le gouvernement congolais finance les élections. Ça ne va pas dire que le gouvernement a dit qu'il n'avait pas de moyens et qu'il demandait aux États-Unis de pouvoir donner l'argent. Mais c'est comme d'habitude dans le partenariat. Il y a un pays, l'Union européenne et les États-Unis qui peuvent appuyer avec le moyen, mais cela n'a pas exclu la responsabilité du gouvernement, où le gouvernement a dit qu'il était incapable de pouvoir financer et qu'il avait besoin que l'étranger lui donne de l'argent.
C'est les partenariats, on ne refuse pas ça, mais c'est qu'il faut savoir que c'est la main qui donne et c'est la main qui dirige. C'est pourquoi vous voyez la réalité des résultats n'est pas ce qui est entendu par la population. C'est pourquoi vous voyez, quand on proclame les résultats, il y a toujours des contestations. Même si dans chaque pays du monde, il y a toujours eu contestation lorsqu'on proclame les résultats. Mais que cela ne puisse pas nous amener à des mêmes erreurs. Parce que quand on finance comme ça, on a un mot à dire par rapport au processus électoral. Parce que nous sommes un pays souverain. Nous sommes un état de droit. Nous sommes un pays souverain prôné par l'article 1er de la Constitution. Donc, on doit s'autofinancer à ce qui concerne d'autres engagements du pays, d'autres processus, par exemple le processus électoral. Le pays doit être responsable de soutenir ce processus électoral et amener les élections en bonne et due forme pour éviter les aides et les métandis de part et d'autre. Malgré les partenariats, s'ils ont les partenariats, qu'ils viennent financer d'autres secteurs, par exemple, d'autres matières dans les pays où nous avons les insuffisances, ce n'est pas seulement en matière électorale. Voilà ce que je voulais répondre par rapport à ce que vous avez soulevé à ce qui concerne les partenariats et autres gouvernements par rapport au processus électoral dans notre pays. Donc, ce qui est en bref, il faut respecter les délais constitutionnels. L'article 73 de la Constitution oblige à la CENI d'organiser les élections et le gouvernement doit financer. Dans le cas contraire, c'est la CENI et le gouvernement qui seront responsables. Voilà un peu ma contribution par rapport au sujet.
Merci. Merci beaucoup, Deo Gracias. Vous estimez que la CENI, en tant qu'un organe d'appui à la démocratie, devrait vraiment jouer son rôle en respectant le temps. Vous vous inquiétez pourquoi renvoyer, par exemple, l'enrôlement des électeurs au mois de décembre? On l'aurait déjà commencé immédiatement après la publication de la cartographie, après l'opération d'identification de la cartographie, d'élaboration des cartographies. Notre ami Kalo le disait tout à l'heure qu'on devait déjà coupler cela avec la formation des agents électoraux et commencer l'enrôlement immédiatement. Alors, par rapport aux appuis extérieurs, n'est-ce pas, à ce qui concerne le procès électoral, vous estimez que ce n'est pas vraiment bien de pouvoir recevoir le fonds qui vient de l'extérieur? C'est un domaine de souveraineté où le gouvernement devrait seul alors financer les élections, mais nous avons juste alors ouvert une brèche pour dire que le gouvernement n'avait pas déclaré qu'il n'avait pas de moyens de pouvoir financer les élections. Le gouvernement le dit presque tous les jours, que le processus va être amené au bout en 2023. Et vous estimez dans tout ça que c'est très important de le faire pour éviter des contestations, et c'est ce qu'on a toujours observé chaque fois quand il y a des élections dans notre pays. Merci beaucoup, Deo Gracias. À Kisangani, Marie-Paul est avec nous. Bonjour, Marie-Paul.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
On vous écoute, Marie-Paul.
Oui, monsieur le journaliste, disons que l'organisation des élections dans un pays à système démocratique est l'une des préoccupations majeures dans ces pays-là. Et la convocation des élections permet la légitimation du pouvoir, car c'est le peuple qui dirige, qui désigne ses représentants de manière générale pour que le pays soit doté des représentants qui sont démocratiquement élus à tous les niveaux du pouvoir. Et les élections également établissent les citoyens dans les droits du premier détenteur de souveraineté. Et ainsi, l'État imparti de la convocation des scrutins en 2023, il y a déjà un relativement court, et les travaux qui sont restés à faire par la CENI sont costauds. Et de ce point de vue-là, je trouve déjà qu'il y a une contradiction entre, bien évidemment, l'État, les moyens et, bien évidemment, la sécurité à prendre pour organiser les élections dans de très bonnes conditions. Les éléments que je viens de soulever ici envoient bien comment les choses se font dans notre pays et peuvent impacter négativement sur le processus électoral en cours. Et surtout que nous sommes dans un pays où les conflits sont pleins. Il y a aussi un problème des infrastructures. Nous n'avons pas de routes. Il faudrait que la CENI achemine tous les matériaux ainsi de suite dans les recoins. Ça va poser énormément de problèmes. Et voilà pourquoi, à mon sens, je trouve que les préalables sont entre autres que les experts de la CENI doivent nous énumérer toutes les difficultés qui peuvent entraver le processus électoral en RDC. Et cela va permettre déjà à ces experts-là de pouvoir imaginer des moyens de sortie. Parce que nous ne voulons pas qu'il y ait les glissements, parce que nous savons comment les politiques font les choses dans notre pays. Il y a une façon polie, il y a des glissements à douceur, il y a des manières polies de faire des choses dans notre pays, alors qu'en faisant ainsi, s'il y a un glissement, là justement nous allons énerver la Constitution, pourquoi pas les autres lois. Ça c'est le premier préalable, parce que nous devons le faire. Vous savez, monsieur le journaliste, en 2011, nous n'avons pas voté pour les députés provinciaux. Il ne faudrait pas que aujourd'hui, pour les élections de 2023, nous arrivons encore à ces paramètres-là. Et aussi, si vous lisez la Constitution, vous lisez la loi électorale, les cycles complet des élections, nous ne les faisons pas en RDC, parce qu'il faudrait que les élections soient organisées à tout moment, à tous les niveaux du pouvoir, conformément justement à la loi sur la décentralisation, à la loi de libre administration des provinces. Mais au niveau municipal, au niveau local, les élections ne sont pas organisées. Alors que nous avons maintenant les experts qui nous ont fait qui nous ont vraiment montré leur bonne foi de pouvoir diriger dès les biens la CENI. Je crois que si ces autorités arrivent à organiser ces élections à tous les niveaux, ça sera une bonne chose. Et cela va faire que les résultats qui sera programmé à l'issue de ces élections ne soient pas contestés, mais soient vraiment un résultat qui reflète la volonté de la population. Parce qu'on en a quand même marre. À tout moment, on organise les élections, il y a des contestations, et on doit aller dans des conciambules, on doit aller faire des choses. Tout ça, ça traîne les pays dans les frais de développement. Et ça montre en face du monde que le processus de la démocratisation dans notre pays n'est pas encore réussi. Nous devons quand même aussi, après avoir inventorier toutes les erreurs que nous avons commis en 2006, en 2011, pendant tout ce cycle-là, en 2018, nous devons absolument, en 2023, solutionner toutes ces erreurs-là pour que nous ayons vraiment des élections qui sont démocratiques, des élections qui expriment la volonté de la population, au lieu qu'on soit dans ces jeux des glissements, tout ça, ce n'est pas bon.
Et voilà. Alors, Marie-Paul, mais vous avez évoqué la responsabilité tout à l'heure, depuis le début de l'émission, tous les compatriotes sont revenus sur la responsabilité de la CENI, la responsabilité du gouvernement, mais au niveau des acteurs politiques et au niveau de la société civile, y a-t-il aussi une part à jouer dans cette question du processus pour lui permettre d'arriver en douceur et de pouvoir les réussir?
Oui, justement, parce que aujourd'hui les élections, c'est parmi des processus que tout le monde doit participer, la participation de tous. C'est là où on remet à la population les pouvoirs de pouvoir désigner des gens qui méritent. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. Nous avons des dirigeants qui font des détournements, qui font des choses qui n'ont rien à voir avec les biens communs. Et si aujourd'hui tout le monde s'implique, et la société civile s'implique, et tout le monde, c'est l'affaire de tout le monde, ça va prouver que nous aurons des bonnes élections et que le pays soit doté des autorités qui sont légitimement élues, qui sont démocratiquement élues, et cela va permettre que ces gens là travaillent aux côtés de la population et travaillent pour le bien-être de la population. Et tout ce que nous évitons, ce sont des récupérations politiques. Tout ce que nous évitons, ce sont des calibres politiques pour éviter de jeter encore la merde dans ce processus qui se dessine bien. Mais moi, je trouve déjà qu'il y a un problème. Il y a cette dialectique-là déjà par rapport au temps imparti, par rapport aux travaux qui sont restés à faire et par rapport aux moyens. Parce qu'aujourd'hui, vous avez évoqué pertinemment bien, vous êtes informé, il y a quand même un problème de moyens. Si vous lisez dans notre constitution, dans les budgets, on vote toujours un montant commun à part pour les organisations, pour l'organisation des élections. Mais si on voit bien, cet argent n'est pas affecté pour l'organisation des élections. À chaque moment que nous voulons organiser les élections, nous ne refusons pas que les autres viennent nous donner un peu, nous viennent en rescousse. Mais ce qui est vrai, que les élections relèvent de la souveraineté nationale. Et nous devons être en mesure, parce qu'il y a déjà des lois, il y a déjà des processus qu'on a votés pendant qu'il n'y a pas les élections, on puisse mettre l'argent à côté. Voilà là où ça pose le problème. Le fait qu'il n'y a pas la gouvernance, l'argent qu'on devait mettre à côté, les individus les prennent et les utilisent pour des choses qui n'ont rien à voir avec les élections. Et à chaque fois qu'on cherche à organiser les élections, il faut tendre la main aux États-Unis, il faut tendre la main à la France, et il faut tendre la main dans d'autres pays. On dirait que nous continuons à être toujours des bébés.
Mais rappelons pour terminer, Marie-Paul, vous l'avez dit, rappelons quand même que le processus 2018 a été entièrement financé par le gouvernement congolais, et d'ailleurs ce sont les engagements qui sont pris encore par le gouvernement actuel de pouvoir financer le processus. Mais vous estimez que, compte tenu de la feuille de route qui nous a été rendue publique par la CENI, déjà on enregistre un retard, on devrait déjà être suffisamment avancé par rapport aux opérations d'enrôlement des électeurs, parce que d'un côté, vous estimez aussi qu'il n'y a pas suffisamment de moyens libérés à temps par le gouvernement pour permettre à ce que la CENI puisse respecter son chronogramme d'opérations et d'activités. Merci beaucoup, Marie-Paul. Alphonse, Alfred, vous êtes à Calémie. Merci d'avoir rejoint Parole aux auditeurs. Bonjour, Alfred.
Bonjour, c'est le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs de la radio.
On vous écoute, Alfred.
Merci beaucoup. J'aimerais aussi rebondir dans le même sens que mes prédécesseurs. En contribution, je me pense bien que d'abord qu'il faille respecter, qu'il faille rappeler aux dirigeants de la CENI au respect du calendrier et à la prise de conscience pour le bon déroulement des élections en 2023. La CENI, qu'on appelle aujourd'hui institution d'appui à la démocratie, c'est une institution indépendante. Et que donc, pour son fonctionnement meilleur, elle doit jouir en toute, elle doit procéder à ses activités en toute indépendance, sans dépendre, bien entendu, d'une autre institution. Nous avons récemment entendu les financements, l'octroi des kits électoraux de par-ci par-là, mais malgré cela, les reports ne cessent de s'augmenter au sein de cette institution. Je me pense bien que c'est un défi à relever au sein de cette institution. En dépit de tout cela, une loi organique relative à l'organisation et fonctionnement de cette institution a été récemment publiée pour toujours appeler aux dirigeants de mieux faire le travail et de bien respecter les règlements qui les régissent. Mais nous nous retrouvons en face d'une institution qui ne sait pas par où commencer ni par où terminer. Aujourd'hui, les enrôlements ont été reportés. Nous ne connaissons pas les motifs pour lesquels ces derniers ont été reportés.
Mais donc, rappelons quand même que, rappelons Alfred que la CENI n'avait pas déjà donné un calendrier pour dire que non, il devait commencer. Il y avait une feuille de route qui était une proposition. Mais aujourd'hui, elle estime qu'elle peut commencer l'enrôlement à la fin de cette année. Mais vous estimez que ce fonctionnement montre que la CENI n'agit pas vraiment en toute indépendance.
Tout à fait. Il y avait une feuille de route et cette feuille de route avait précisé, bien entendu, la date pour laquelle les enrôlements pouvaient se faire. Mais ça n'a pas été respecté. C'est là que je relève les défis que nous devons rencontrer à la CENI pour que nous retrouvions dans un bon fonctionnement de cette institution.
Merci beaucoup Alfred. Je rappelle encore que vous pouvez intervenir en direct dans ce magazine consacré au processus électoral en nous appelant au 081-890-4969. Mais vous pouvez aussi rejoindre l'ensemble d'internautes sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs.
Paroles aux Auditeurs.
Alors Guy, vous êtes à Kananga dans la province du Kasaï central. Bonjour Guy et merci de nous avoir rejoints dans Parole aux Auditeurs.
Bonjour monsieur le journaliste.
On vous écoute Guy.
Oui, merci pour l'octroi de la parole. Bon, comme préalable dans notre processus électoral de 2023, nous avons proposé que nous sentons qu'il n'y a pas le consensus entre la classe politique. L'opposition, comme si elle est frustrée avec ce processus. Alors, deuxième proposition, nous avons proposé que la société civile doit soit dotée de moyens conséquents pour sensibiliser la population, afin que la population puisse s'approprier le processus électoral. Et aussi la partie Est de la République. Aujourd'hui, je ne sais pas comment nous allons aller aux élections avec cette situation de la guerre qui est dans la partie Est de la République. Alors tout ça, nous interpellons à nos dirigeants qu'on ne puisse pas faire des jeux avec le processus de notre élection de 2023. Il faut qu'on dote les moyens, qu'on puisse faire les choses d'une manière que chacun puisse se retrouver. Vous trouvez qu'il y a une classe politique, si aujourd'hui l'actuel chef de l'État vient de l'opposition, il pouvait favoriser que l'opposition, et qu'on puisse nommer les porte-parole de l'opposition, pour qu'il y ait des échanges entre les classes politiques. Mais malheureusement, les choses se passent de manière que nous voyons, les choses sont en train de passer, c'est très malheureux. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Guy. Rappelons quand même pour la dernière préoccupation, la désignation du porte-parole de l'opposition, comme on l'a dit, c'est au niveau de plénière, hein, depuis que cela est prévu, au niveau de la Constitution, on n'arrive pas, je crois. Au niveau aussi de la loi organisant le statut de l'opposition, au niveau de la Constitution, l'opposition a eu toujours du mal à pouvoir désigner son porte-parole et chaque fois l'opposition accuse le pouvoir en place de pouvoir de les empêcher de désigner le porte-parole de l'opposition. Vous estimez que cela peut permettre à ce que l'opposition soit bien organisée organisés et fédérés. Mais au-delà de tout, pour vous, un grand préalable aujourd'hui, un préalable majeur à l'organisation des élections en 2023, c'est le consensus qui doit être trouvé autour de ces processus, que ce soit tous les acteurs politiques ainsi que la société civile. Et vous appelez d'ailleurs la société civile à pouvoir s'investir dans la sensibilisation de la population pour que cette dernière puisse s'approprier le processus électoral. Et c'est de cette façon vraiment qu'on pourra avoir un processus apaisé et des élections qui soient acceptées par tous. Merci beaucoup, Guy, de nous avoir appelé de Kananga. Docteur Michel, vous êtes à Goma, dans la province du Nord Kivu. Bonjour. Docteur Michel Bolingo, vous nous appelez de Goma. Bonjour.
Bonjour, très cher Radio Kapi. Merci pour m'avoir associé encore à cette émission. Je rappelle aux auditeurs que je suis Docteur Bolingo Sekdes Mikael à partir de la ville de Goma.
Oui, on vous écoute.
Le sujet est tellement pertinent, vraiment, c'est très bon. Comme vous avez dit, il faut une volonté politique pour qui organisation des élections. Vous allez voir avec moi que d'abord, du côté de la CENI, il n'y a pas un consensus. Au-delà de ça, je veux parler d'abord de la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Aujourd'hui, sont des provinces sous état de siège. On ne sait pas est-ce qu'il y aura organisation des élections, mais qu'il y a, nous sommes des provinces en guerre. Au-delà de ça, le gouvernement doit doter à la CENI des moyens nécessaires pour qu'il y ait organisation des élections. Au-delà de ça, il faut qu'il y ait l'implication du gouvernement et de la société civile. Parce que nous sommes en train de voir qu'il y aura beaucoup, beaucoup de difficultés sur le terrain. Et d'abord, nous sommes en retard. Au-delà de ça, n'oubliez pas que l'enrôlement est combiné au recensement. C'est pour cette occasion que je voulais aussi proposer à la CENI. Nous sommes en quatrième fois d'organiser les élections en République démocratique du Congo. Nous observons souvent des contentieux électoraux. C'est pourquoi j'étais en train de proposer à la CENI de pouvoir mettre en place un logiciel, si ça sera possible, que tous les ambitieux politiques, que tous les députés, lors des élections, puissent avoir des messages, des notifications de leurs résultats avant la publication des résultats finaux. À chaque centre, que par exemple, celui qui est un candidat puisse avoir un message dans quel bureau j'ai reçu autant de voix, dans quel bureau j'ai reçu autant de voix. Comme ça, ça peut pallier tant soit à des contentieux. Là, vous allez voir. Parce que c'est un endroit, c'est le moyen de vol, ils ne vont pas accepter. Mais c'était ça ma proposition.
Merci beaucoup, docteur Michel Bolingo. Vous êtes à Goma. Vous posez d'abord des questions pour savoir si les provinces sous état de siège comme le Nord Kivu et l'Ituri qui connaissent beaucoup de cas d'insécurité, si ces provinces pourront vraiment aller aux élections, c'est votre inquiétude. Et d'un côté, vous vous inquiétez aussi du mode d'enrôlement des électeurs. Si cela se couple avec le recensement au même moment, ça va être très difficile vraiment que la CENI puisse terminer les opérations avant les dates prévues pour tenir l'élection présidentielle. Ce sont vos inquiétudes. Mais d'un côté, vous avez une proposition. Vous estimez que pour éviter les contestations, si c'était possible, que la CENI puisse avoir un logiciel de dépouillement qui permet à ce que chaque candidat puisse recevoir les résultats des dépouillements directement à travers son téléphone portable. Comme ça éviterait tout ce que nous avons comme problème de recours autour du processus électoral avec la contestation de résultats. Nous avons aussi beaucoup d'internautes qui commentent ces sujets sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs, comme Peter Maboudi qui nous écrit des Chikapa dans la province du Kassai. Il dit ceci: vu la situation dégradante des infrastructures routières dans l'ensemble du territoire national, la formation des agents, formateurs provinciaux, territoriaux et les opérateurs informatiques, le manque d'un calendrier comme outil de travail, il sera très difficile pour la CENI à atteindre les objectifs dans les délais constitutionnels pour la tenue des élections en 2023. Notre compatriote bienvenu Ignati, lui aussi s'inquiète par rapport à ça. Il y a aussi Eli Omar qui dit ceci avec l'actuelle Cour constitutionnelle, la CENI non consensuelle et une loi électorale qui n'a pas été acceptée par tous, c'est difficile de pouvoir trouver un consensus et avoir des élections qui puissent convaincre tout le monde. Voilà autant d'inquiétudes aussi qui se manifestent sur la page Facebook. Alors, Junior Bompongo, vous êtes avec nous ici à Kinshasa. Merci de nous avoir rejoints dans cet échange. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Junior.
Moi, je dirais ceci, que notre pays a une petite, donc une grande expérience en ce qui concerne l'organisation de la tenue des élections. Même sous l'époque qu'on qualifie de dictature mobutienne, donc sous le régime de Mobutu, notre pays a organisé les élections. Et alors, alors, de ce fait, il s'est de rappeler à la CENI de pouvoir d'abord revoir donc en ce qui concerne le PLB pourrait être dans la révision du fichier électoral. Ça serait un vrai caméra que la CENI doit vraiment se guider. En dépit de ça, ce qui m'a encore beaucoup plus. Allô?
Oui, on vous écoute, Junior.
Alors, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est la dernière décision prise par la CENI, parce que on veut expérimenter une décision pilote pour permettre aux Congolais de la diaspora de pouvoir participer au vote. Mais cette décision, à mon avis, est assez discriminatoire. Pourquoi je dis qu'elle est discriminatoire? On veut faire le choix sur certains pays tout en excluant d'autres. Alors que
alors, si vous suivez bien, Junior, ce qui a été sans pouvoir défendre la CENI, on a estimé que comme c'est le début, il y a toute une logistique qu'il faudra déployer, la mobilité, le déplacement, l'accès à certains pays. C'est pourquoi on ne pouvait pas y commencer avec tous les pays du monde entier dans lesquels se trouvent les Congolais d'un coup. C'est une expérience. Faudra-t-il d'abord commencer par quelques pays pilotes et puis voir comment ça évolue avec l'État. Maintenant, on peut l'extendre. Au lieu de pouvoir commencer avec le monde entier et puis échouer en cours de route, c'est pourquoi il propose de commencer quelque part et étudier le processus et voir comment on peut l'étendre sur l'ensemble de pays où se trouvent les Congolais.
Voilà, soit on fait un effort, la CENI doit faire l'effort de faire participer toute la diaspora, soit elle abandonne, parce que je pense que cette disposition, donc les pays, donc la CENI n'est pas prête pour... insérer cette disposition ou donc pour mettre en pratique justement cette disposition.
Okay. Alors, mais Junior, si vous estimez que ou soit on fait enrôler toute la diaspora, si on enrôle quelques personnes dans quelques pays seulement et que les autres ne participent pas, c'est une discrimination. Mais rappelons quand même que ça fait 3 élections qu'on n'enrôle pas le Congolais de l'étranger. C'est-à-dire que si les Congolais de l'étranger ne participent pas et vous souhaitez que tous ne participent pas, c'est déjà la discrimination d'ailleurs.
Non, ça c'est une discrimination positive. Pourquoi? Parce que toute la diaspora n'a pas pris part. Mais lorsqu'il y a une discrimination négative, même la philosophie ne permet pas ça. Donc il y a une forme de discrimination qui peut être positive pour tout le monde, mais lorsque une discrimination devient de plus en plus négative, c'est-à-dire une partie on privilégie les autres et qu'on ne privilégie pas les autres, ça sera parce que, prenons par exemple, on prend la France. La France, la Belgique, ce sont les pays des membres de l'Union européenne. Mais on dit que ceux qui sont en Allemagne, en Hongrie et d'autres pays ne doivent pas participer. Voyez-vous?
Alors voilà, pour évoluer, Junior, on n'a pas dit qu'ils ne doivent pas participer. Comme l'ai dit, je rappelle encore qu'il y a eu des opérations sans défendre la CENI. Nous avons fait le débat sur la gratuité, sur beaucoup de choses par lesquelles on commence avec 2 ou 3 provinces pilotes comme Kinshasa, puis après on étend ça à travers le pays, ça dit qu'on étudie. Alors vous estimez que où soit on puisse carrément exclure toute la diaspora plutôt que le faire dans un processus où on prend quelques pays dans l'idée qu'on pourra étendre ça. Mais au-delà de tout ça, vous estimez quand même que l'opération de la révision du fichier électoral devrait déjà commencer pour pouvoir permettre à ce que les choses soient fiables et puis ça puisse vraiment respecter le temps comme il faut pour tenir ces élections dans le délai. Alors, il y a notre ami Alain Kongolo qui nous écrit sur la page Facebook à partir de Kananga. Pour lui, les préalables à faire, c'est d'abord l'identification et le recensement de la population congolaise afin de lutter contre les fraudes électorales lors des prochaines élections, mais aussi il faut respecter la constitution qui prévoit le modèle de la tenue de scrutin au pays, sinon c'est toujours il y aura toujours des contestations. Il y a aussi Jacques Kamoni Motanga. Pour lui, les préalables sont déjà connus. Il n'y a que le président de la République qui puisse peut-être refuser de pouvoir organiser les élections, mais on sait déjà ce qui doit être fait. Alors, il faut quand même qu'on y arrive. Voilà. Patrick, merci de nous avoir rejoints dans ce débat. Bonjour. Patrick, bonjour.
Okapi.
Alors, rapidement, vous êtes les derniers auditeurs. Quel est votre point de vue, rapidement, par rapport à cette question du procès électoral?
Moi, je pense que le gouvernement congolais doit doter à la CENI des moyens. De quels moyens va lui permettre de respecter son calendrier électoral? Et au-delà de ça, la sécurité doit être rétablie sur toutes les années du territoire national. Puisque je suis en train de me demander comment la CENI pourra déployer ses matériels d'enrôlement dans les centres où l'institution se vit. Là, je vois la commune de l'Itoué, par exemple, à Djibouti, à Beni, dans le plateau de Jura.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Patrick, merci à l'ensemble des auditeurs, vous avez été nombreux à commenter ces sujets. On poursuit les débats sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Merci à Paul Badianyama qui était à la mise en onde de ce magazine réalisé par Anania Jirema Bondo. Quant à moi, Piero Elamé, je vous retrouve demain pour un autre numéro des Paroles aux Auditeurs. Mais vous pouvez retrouver cette émission sur www.radiocapi.net. Merci et au revoir.